Tru-tru-tru, les soldes, tru-tru-tru, c'est les soldes. Offre last minute chez Cosmite et Chou. Ne manquez pas de visiter notre magasin au premier étage de votre centre commercial préféré. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour paraître plus jeune, plus mince, plus beau, plus belle, plus authentique. Les soldes, oh, tout à 50% chez Maroquinus, au sixième étage de votre centre commercial préféré. Les sacs à main les plus tendances, des attachés case pour hommes exigeants. Et des valises pour ramener de vacances vos souvenirs les plus chéris, les plus authentiques, bien entendu. Les soldes, les soldes, les soldes. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Connaissez-vous nos produits de beauté naturels pour hommes? Ils sont à base de romarin, d'huile d'olive et de parmesan.
Non merci, je ne les connais pas.
Et vous pourriez les connaître dès aujourd'hui si vous signez ici. Vous pouvez ne payer que demain. Et c'est très avantageux. Et aujourd'hui, en promotion, pour seulement 40% de plus, vous obtenez les mêmes produits pour votre femme, votre chien et... Vous êtes marié? Ça vous intéresse?
Oui, merci. Enfin, voilà.
Merci, monsieur. Oh, bonjour, monsieur. Je vois que vous aimez l'aventure. Je vois que vous aimez les contrées étrangères, sauvages, les étendues vastes, les bêtes sauvages.
Mais comment vous le savez?
Mais ça se voit, monsieur. Votre regard décidé, votre mâchoire volontaire, votre démarche assurée.
Oui, oui.
Eh bien, vous pouvez, aujourd'hui seulement, contracter une offre unique et exceptionnelle. Souscrire à un voyage inoubliable pour 2 semaines. Allez, ah, sous tente.
Oui, ça m'intéresse.
Oui, un voyage sous tente dans des contrées justement sauvages, avec des bêtes sauvages et du désert tout autour de vous. En Ouzbékistan. Et vous pourrez participer ainsi à un périple dont vous vous souviendrez, allez, toute
oui.
Votre vie, et vous reviendrez transformé, ébloui et encore plus authentique.
Ça m'intéresse. Je oui. Dois signer aussi?
Oui, bien sûr, ici. Merci. Et puis, donnez-moi
merci.
Aussi le numéro de votre compte de crédit, parce que comme ça, vous vous acquittez juste d'un modeste acompte de 3500 francs, et en attendant, vous recevrez votre travel pack qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
Très bien, très bien. Merci.
Bon voyage, monsieur.
Au revoir, madame.
Au revoir. Au revoir. Les soldes, les soldes. Ah, oh. Oh, là, voilà. Bonjour, monsieur. Vous savez, vous pouvez redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus.
Ah oui, bien
ah
sûr.
Oui, oui. Et je veux parler justement des rescapés traumatisés par l'ouragan Sebastiana qui vient de ravager l'archipel des Bahamas.
Ah, qu'est-ce que je peux faire?
Oui, alors vous pouvez justement donner tout ce que vous avez, par exemple. Hein, voilà, ici, vous pouvez signer.
Encore?
Oui, encore signer. Voilà, vous laissez vos coordonnées, comme ça on vous écrira une carte de remerciement hein, avec des dessins d'enfants rescapés.
Très bien,
ouais,
très bien.
Ouais. Ouais. Ça vous va
très
comme
bien.
Ça? Oui. Ouais, ok. Et je vous assure, hein, ces enfants, ils attendent que ça.
Oui, merci. Merci.
Je vous assure. Merci. Moi, je suis venue pour que les hommes aient la vie en abondance.
comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit,
« Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras pas de tort. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. »
Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit,
« Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. »
Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples,
« Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit,
« Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus regarda et dit,
« Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. »
Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit,
« Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. »
Amen. C'était le texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 17 à 31. Le jeune homme riche accourt vers Jésus et il se jette à genoux. J'aime beaucoup ce début d'histoire, d'événement, où cet homme arrive de tout son être, de tout son cœur, et il est prêt à entendre une parole de Jésus. Et même alors qu'il est un notable, il se met à genoux devant Jésus. Et il a envie d'entendre une parole, il recherche, il est déterminé, il ne calcule pas, il veut entendre ce que Jésus a à dire. Et il vient vers lui. Il y a comme une soif qui est là, un moment où son cœur parle et son cœur l'entraîne vers Jésus.
Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Et le terme « bon » qui est employé par le jeune homme est en fait utilisé uniquement pour la personne de Dieu. Jésus souligne que la réponse à la question du jeune homme, donc comment obtenir la vie éternelle, est directement liée à la personne de Dieu. C'est Dieu seul qui donne la vie. Et en répondant ainsi, Jésus montre aussi qu'il est ce Dieu qui s'est incarné. Il cherche à provoquer en fait une prise de conscience dans la pensée du jeune homme. Il le provoque. Quelque part, il lui dit, mais tu entends comment tu m'appelles ? Tu entends le qualificatif que tu utilises pour t'adresser à moi ? Ça s'applique qu'à Dieu. Alors, ne l'utilise pas si tu ne crois pas que je suis Dieu. On pourrait imaginer que Jésus se dit ça. Et Jésus va refuser de se faire coller l'étiquette d'homme religieusement correct. Il n'a pas envie d'être l'homme sage, le bon rabbi. Jésus n'aime pas du tout l'hypocrisie. Et ça ressort toujours en fait dans ses échanges avec les pharisiens, où il les traite carrément d'hypocrites. Jésus, il n'est pas venu pour faire plaisir, pour nous faire plaisir. Il n'est pas venu pour faire joli dans le paysage religieux. Pas trop. Il est venu en nous dérangeant. Et moi, je suis souvent dérangée par Jésus. Peut-être que c'est votre cas aussi. Mais les bons sentiments, ça ne l'intéresse pas spécialement. Jésus va demander une réponse entière, totale, de tout notre être, comme on l'a chanté. Ce n'est pas un oui pour faire plaisir que Jésus attend. Ce n'est pas un oui pour l'amadouer. Ou un oui parce que notre papa et notre maman avaient dit oui avant nous. Un oui parce que c'est la tradition, la religion, même tout évangélique. Hein, on est quand même bien traditionnel aussi. Jésus va nous laisser entièrement libres de choisir. Et si nous lui disons oui, alors c'est avec tout notre être, exactement comme on l'a chanté ce matin. C'est un oui qui est plein. Et Jésus va rappeler les commandements au jeune homme. Il va lui dire « ne tue personne, d'accord, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, etc. » En fait, là, Jésus, il va citer 5 des 10 commandements. Il en rajoute un. Il rajoute « ne fais de tort à personne ». Voilà, c'est un petit résumé comme ça. Pourquoi est-ce que Jésus va lui dire tout ça? Est-ce qu'il est en train de vérifier si le jeune homme a fait tout ce qu'il faut faire, une sorte de checklist, vous savez, avant d'entrer au paradis? Et puis, on pourrait aussi être surpris, n'est-ce pas, par cette réponse de Jésus. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus vient nous surprendre, là. Mais, en fait, il va rejoindre le jeune homme, là où ce jeune homme en est. Il est, ce jeune homme, sur le plan du faire, sur le plan des œuvres, de la loi. Et Jésus vient le chercher là où il en est. Et c'est aussi souvent notre plan à nous, n'est-ce pas? Et en fait, si Jésus lui répond sur ce plan des comportements, c'est parce qu'il va aussi chercher à capter son attention et à l'amener un petit peu plus loin. Mais voilà, il commence à le rejoindre là où il en est. Car en fait, ces commandements, bien sûr, ils restent valables. Ce sont des commandements qui sont bons, qui nous permettent de vivre de manière équilibrée avec nous-mêmes et avec, bien entendu, ceux qui nous entourent. Mais surtout, en fait, il va s'agir du cœur de la loi, du cœur de celui qui a donné la loi, de l'esprit même de Dieu qui est derrière ses commandements. C'est à cela, c'est à cette personne-là que Jésus veut attirer le jeune homme riche. Tu connais les commandements. Là derrière se cache une demande peut-être un peu provocante de Jésus. Tu connais les commandements, alors qu'est-ce que tu veux en fait? C'est quoi au fond ta véritable demande?
Et c'est là que le jeune homme répond. Elle dit, maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Qu'est-ce qui est important dans cette réponse du jeune homme? Il me semble que ce qui est important, c'est le « je ». J'ai fait, j'ai appliqué, j'ai réussi. Ce jeune homme est très préoccupé par ses propres succès. Et sa première question, c'est d'ailleurs, que dois-je faire? Tout est comme centré sur lui. Il veut réussir. Puis entre nous, bien, excusez-moi du peu, mais avec juste la liste que Jésus a donnée, puis qu'il dit, bien, j'ai réussi à tous ces niveaux, ben, faut quand même y aller, hein? Oui, alors peut-être le meurtre, l'adultère, etc. Mais quand il dit, ne fais de tort à personne, et puis honore ton père et ta mère, s'il a réussi dans tous ces domaines, mais c'est incroyable, quel homme! Il a sa vie en main, il n'a pas ménagé ses efforts, il semble prêt à tout. Peut-être qu'il s'attend à ce que Jésus lui tape sur l'épaule. Bien joué, exactement, c'est ça que j'attendais. À qui vous fait-il penser? Et ce qu'on va voir, c'est, mais où, finalement, dans cette réussite apparente de ce jeune homme qui est riche et qui suit tous les commandements, où est la faille, si on peut dire ainsi, ou l'interstice par lequel une parole va pouvoir changer quelque chose?
« Jésus, l'ayant regardé, l'aima. C'est, de mon point de vue, l'un des versets les plus touchants du Nouveau Testament. Jésus pose son regard sur cet homme et l'aime. Jésus regarde Laurence et l'aime. Jésus regarde Eliud et l'aime. Un regard d'amour. Tel est ce regard de Jésus sur ce jeune homme, malgré tout son orgueil, malgré tout son égocentrisme. Ce regard, il le pose sur chacun de nous. Ce n'est pas un regard global comme la mondialisation ou comme les soldes. C'est un amour qui est complètement personnel. Jésus pose son regard sur lui, ce jeune homme-là, ce jeune homme riche, et il l'aime. Et de même, il nous aime, chacun de nous. Nous ayons regardé, nous ayons connu, il nous aime. Et puis il va lui dire, il te manque une chose. Jésus va ici répondre au désir de ce jeune homme. C'est comme s'il lui disait, tu accomplis les commandements du mieux que tu peux, tu le fais même depuis que tu es enfant, mais il te manque quelque chose d'essentiel et de fondamental. Et là, je dirais, c'est la phrase qui tue. Jésus a cette phrase surprenante qui en a interpellé plus d'un depuis qu'il l'a dite. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Quoi, c'est ça l'essentiel ? D'aller vendre tout ce qu'on a ? De devenir pauvre, c'est ça que Jésus veut en fait, qu'on n'ait plus rien à nous et que voilà, qu'on se dépouille pour donner à ceux qui n'ont pas. Est-ce que c'est bien cela? C'est en tout cas pas une restriction de Jésus, ni même une punition qu'il faut comprendre ici. On vient de dire que Jésus il a vu en cet homme en fait son immense et profond désir et qu'il l'aime véritablement. Et se trouve que par cette parole qui va demander énormément au jeune homme, eh bien, c'est la libération que Jésus lui apporte. C'est une phrase ici qui est libératrice pour ce jeune homme. Et ce n'est pas parce qu'il est riche que Jésus lui dit ça. Jésus avait plusieurs amis riches, connaissait plusieurs personnes riches à qui il n'a pas dit la même chose. Mais c'est parce que Jésus discerne que ce jeune homme-là, il est lié par ses richesses. Il est tenu par son amour pour ses biens. D'accord ? Il n'est donc pas libre. Et Jésus voit le cœur de ce jeune homme. Derrière ses habits qui sont finement tissés, derrière son élégance, derrière ses propos certainement bien formulés, il y a autre chose. Il y a une insécurité, certainement. Il y a un cœur, il y a des pensées, il y a des émotions que Jésus discerne et qu'il aime. Jésus est ému de compassion, en fait, devant ce jeune homme. Il a vraiment un amour profond pour lui. Et à cause de cet amour, Jésus va lui dire la vérité. Ce n'est pas hyper agréable, certainement, pour ce jeune homme, d'entendre ces paroles. Mais c'est quelque chose qui est indispensable, qui est nécessaire pour sa libération. Ce jeune homme qui peut s'humilier devant tout le monde, puisqu'il vient demander à Jésus, il vient dire, mais dis-moi ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle, eh bien, ce jeune homme-là, il reçoit vraiment une parole libératrice. C'est une parole qui est exigeante, d'accord ? C'est pas léger ce que Jésus lui dit. Mais elle est exigeante parce que ce jeune homme est extrêmement lié à ses richesses. Et Jésus le veut extrêmement, totalement libre. Pas juste libre pour un après-midi, d'accord ? Mais pour toute sa vie. C'est le don de lui-même tout entier, en fait, que Jésus lui demande. Quand tu auras tout vendu et donné aux pauvres, alors viens et suis-moi. Alors tu pourras vraiment recevoir quelque part ce que j'ai à te donner, cette vie éternelle. Parce que Dieu est bon et qu'il la donne, en effet. Mais si notre cœur est déjà plein d'autres choses, alors comment pourrions-nous recevoir ? D'accord ? C'est pas l'émetteur qui grésille, là, c'est le récepteur qui est saturé.
Donc le jeune homme part tout triste Il est assombri, le texte nous dit. Comment aurait réagi cet homme si Jésus lui avait dit de lui acheter un palais? Il aurait entrepris un projet pour trouver un palais pour Jésus. Mais là, c'est une toute autre demande que Jésus lui fait. Et il s'effondre, il devient tout triste. Tout ce qu'il avait espéré jusqu'à présent s'évanouit. Jésus a mis le doigt sur l'endroit de sa vie qui n'est pas soumis à Dieu. Sur l'endroit de sa vie où il peut encore croître dans son être, dans sa personne, comme Christine l'a dit, pour être complètement, totalement don pour Dieu, don de toute sa vie. Et voilà, ce choix que Jésus présente est trop coûteux ou apparaît trop exigeant. Et cet homme devient sombre et triste parce qu'il est lié. Et le texte est très clair. Il dit, mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens, voilà la raison. Il est lié à ce grand bien, à ses grands biens, à ses sous. Son cœur est attaché. Ce qui est étonnant dans ce texte, on va dire, c'est la thérapie de Jésus. Il lui donne cette parole et ensuite il le laisse avec cette parole. Et ce jeune homme, finalement, s'éloigne, part. Mais Jésus ne lui court pas après. Il dit, mais t'as pensé à ceci, mais est-ce que je peux prier pour toi? Mais est-ce qu'on peut discuter encore un moment? Non, Jésus ne prie pas pour lui, sur le moment. Probablement que Jésus a repensé à ce jeune homme et qu'il l'a porté dans son cœur. Mais il le laisse avec cette parole, sous sa propre responsabilité. Et je trouve cela très intéressant, la liberté que Jésus donne. On ne connaît pas la suite. Peut-être que ce jeune homme s'est retrouvé dans la première église plus tard. Qui sait? Je l'espère. Mais sur le moment, il y avait ce choix. Et Jésus le laisse. Il donne une parole inspirée par l'Esprit, par son Père. Et probablement que cette parole va aller travailler dans le cœur de cet homme. Cet homme est lié notamment par l'argent, lié par tout ce qu'il possède. Et probablement que cela rejoint bien notre univers, parce que nous avons des biens. Peut-être qu'on peut toujours se dire qu'on en a plus que nous, mais chacun là où nous sommes, nous en avons. Est-ce que cela nous lie ou est-ce que c'est au service de Dieu? Et c'est la question que cette histoire nous pose ce matin. Comment est-ce que je peux vivre une vie don à Dieu avec tout ce que j'ai? Si je ne donne pas, est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez ou parce que j'ai trop, parce que je n'écoute pas la voix de l'Esprit qui m'invite au partage et à l'échange, parce que tout ce qui m'appartient appartient à Dieu? Et lorsqu'on commence à penser à son porte-monnaie, on réalise que la décision que le jeune homme riche avait à prendre n'est pas simple. Mais il y a des temps et il y a des moments où nous sommes appelés à donner, où nous sommes appelés peut-être à tout lâcher pour donner à d'autres ou pour vivre autre chose. Et dans nos vies, dans nos existences, il y a des moments comme ça où Dieu va venir et nous inviter à tout donner.
S'ensuit après ces quelques versets, versets 23 à 27, qui sont un échange entre Jésus et ses disciples. Et Jésus commente l'épisode et il dit qu'il est difficile, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. À nouveau, est-ce que Jésus en a comme ça après les riches? Non, fausse piste, comme on l'a dit, mais en fait, Jésus, quelque part, au-delà des richesses, c'est au matérialisme qu'il en a après. Ce matérialisme et ce consumérisme, on pourrait bien dire, en ce qui nous concerne dans notre société, qui nous mange de l'intérieur et qui prend vraiment notre cœur, qui prend la place centrale. Donc, pas besoin d'être riche pour être matérialiste et consumériste. Ça nous touche tous. Ce jeune homme qui a gardé tous les commandements depuis son enfance, qui a réellement un désir d'hériter la vie éternelle, hein, et de recevoir une parole de Jésus, ce jeune homme s'en va tout triste. C'est trop dur pour lui. Il serait plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, nous dit Jésus. Ce jeune homme ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin en fait de lâcher ce à quoi il se cramponne. Il a besoin de Dieu. Et à Dieu, tout est possible. C'est là que Jésus dit ce fameux verset, cette fameuse parole. Ce texte, ouais, peut nous sembler dur, n'est-ce pas ? C'est pas si simple d'entendre ces paroles. Et c'est en tout cas bien ce que pensent les disciples de Jésus, hein, qui disent qui peut être sauvé, du coup. Si même les chameaux passent plus facilement par le trou d'une aiguille, alors qui peut être sauvé ? D'accord ? Jésus regarde ses disciples. Encore une fois, ce regard. Il ne parle pas dans le vide. Jésus ne parle pas juste pour parler. Non, il écoute ses disciples. Il les écoute parler entre eux. Il les écoute se demander les uns aux autres qui peut être sauvé. Il prend le temps, Jésus. Il les regarde parler entre eux. Et va s'adresser à eux, en fait, en répondant à leurs préoccupations. Et devant le constat qui est à la fois amer et terrifiant, hein, des disciples, qui peut être sauvé, Jésus va leur ouvrir une porte de salut. Il va, en fait, agrandir le trou de l'aiguille, ou enlever les bosses du chameau, hein, c'est selon. Impossible aux yeux, aux hommes, oui, c'est impossible, mais Dieu peut. Dieu peut sauver, car tout est possible à Dieu. L'espérance que Jésus offre n'est pas à bon marché, hein. C'est pas une espérance à 30% ou à 2 balles. C'est toujours plus immense que tout ce qu'on pourrait imaginer. Alors, et nous, hein, que faire, nous, alors qu'on est vraiment, vraiment immergé dans ce matérialisme, dans ce consumérisme qui bouffe notre société ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous propose d'écouter une citation d'un père de l'Église du IVe siècle. Elle a été écrite par Hilaire de Poitiers, après que l'empereur Constantin avait décrété le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain et que, par conséquent, les persécutions contre les chrétiens avaient cessé. Voilà ce qu'il dit. « Quant à nous, qui n'avons plus un empereur antichrétien, nous devons combattre un persécuteur encore plus insidieux, un ennemi qui nous fait illusion. Il ne frappe pas notre dos à coups de fouet, il nous caresse le ventre. Il ne nous confisque pas nos biens, mais il fait de nous des riches pour nous donner la mort. Il ne porte pas atteinte à notre liberté en nous jetant dans les fers, mais il nous rend esclaves des invitations qui nous sont faites et des honneurs dans les palais. Il ne nous tranche pas la tête du plat de l'épée, mais il nous tue l'âme de ses deniers. » Voilà une citation qui date de 1600 ans. Pas mal actuelle, non ? On est aveuglés, hein, nous-mêmes. On est comme les poissons qui nagent dans l'eau, qui ne se rendent pas compte de l'eau dans laquelle ils nagent. On est dedans. On ne se rend pas compte de l'emprise du matérialisme et du consumérisme sur nos vies. Malheureusement, ça nous coupe de Dieu, ce matérialisme, aussi de nous-mêmes et des autres. Comme le jeune homme riche, nous aussi, nous pourrions repartir tout tristes, tant le lâcher-prise peut nous sembler énorme et coûteux.
Et Jésus termine ce dialogue avec les disciples en disant « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle » sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Je ne vais pas rester très longuement sur ce texte, mais ce qui se dégage ici, c'est de l'espérance. Il y a de l'espérance alors que l'on suit Christ. Il y a de l'espérance au début de cette histoire où Jésus aime cet homme qui est venu devant lui. et où la porte reste ouverte pour cet homme poursuivre Jésus, malgré ce premier instant de choix qu'il a fait, on va dire, dans le faux sens. Mais il reste l'espérance de suivre Christ. Et même si les choix que l'on peut être amené à faire vont parfois nous couper de certaines choses, de biens ou peut-être même de relations, et tout cela peut être par moments très douloureux, apporter de la souffrance, Jésus dit, mais tout cela va être redonné au centuple. Et il parle des relations, il parle de l'Église, de la famille de Dieu, où dans la famille de Dieu, il y a des nouvelles relations qui peuvent se créer. Alors que je quitte certaines choses que Dieu m'appelle à quitter, je retrouve dans la famille de Dieu des frères, des sœurs, des pères, des mères, des liens. Et je ne suis pas seul, mais je suis avec une communauté, avec des gens. Et ça, il y a une grande espérance. Il y a aussi de l'espérance dans cette histoire parce qu'elle nous rejoint beaucoup. Il y a le plan peut-être du matérialisme, mais il y a aussi le plan de ces élans. Tout à coup, on a un élan, puis on dit à Dieu, « Dieu, je veux te suivre, je veux tout faire. » Et puis dans la semaine qui suit, on réalise que c'est bien plus compliqué que ce qu'on en pensait. Et l'élan retombe. Alors que Jésus nous invitait à vivre ceci ou cela dans la semaine, tout à coup, le trop de travail ou la fatigue ou autre chose fait que cet élan retombe. Donc, nous pouvons comprendre aussi ce jeune homme. Mais il y reste l'espérance, parce que Jésus inlassablement aime et va donner une parole pour repartir, pour reprendre, pour recommencer. Il y a cet amour de Jésus qui est là pour chacun de vous, comme Christine l'a dit. Cet amour qui invite au lien, à la relation. Et alors que nous disons tout à Dieu, comme nous l'avons chanté ce matin, « Christ seul me suffit ». Christ seul me suffit. Et on va le reprendre simplement ensemble. En méditant ce texte que nous avons lu, en écoutant la parole que Dieu nous a donnée ce matin, je vais laisser Elina chanter et méditons. Donnons à Dieu, laissons-le creuser notre cœur, laissons les interstices ouverts par lesquels Dieu parle, rester ouverts, pour qu'on puisse ensemble et chacun d'entre nous avancer avec Christ et à sa suite. Vous pouvez chanter avec Elina aussi, hein. Ce que tu reçois dans ton cœur, garde-le précieusement. Ne le mets pas de côté en te disant « j'y répondrai dans un mois ou plus tard ». Mais si l'Esprit de Dieu te parle ce matin, ouvre ton cœur et laisse cette parole pénétrer et t'aiguiller sur la voie de la liberté. Parce que la parole que Dieu donne, la parole que Dieu a donnée à ce jeune homme, c'était une parole pour la liberté. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que tu donnes ce matin. Merci parce que par ton esprit tu viens et tu libères. Et je prie que pour chacun d'entre nous, si nous avons reçu une parole, nous la gardions et nous marchions avec cela à ta suite. Parce qu'alors que tu nous aimes, tu nous appelles à la vie.
Et si nous pensons avoir besoin d'autre chose, en fait c'est un mensonge. C'est véritablement seulement de Jésus dont nous avons besoin. Il est le seul. Tu es le seul, Seigneur. Merci. Tout est en toi. Et nous sommes en toi. Nous sommes à toi. Merci.
Merci, Seigneur. Donne-nous la grâce de pouvoir aller à ta suite et de te suivre pleinement. Parce que nous disons, Christ seul nous suffit. Amen.